Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui.
Et oui, comme chaque semaine, eh bien, Cinérama va essayer de trouver au moins un bon film. Et aujourd'hui, nous allons parler de 4 films. Bonjour Manu.
Bonjour.
Et de quoi tu vas nous parler ?
Eh bien, de films de genre, hein, d'un western, Les 7 mercenaires, remake donc, du film de 1960. Et puis le troisième Blair Witch, un film d'épouvante en found footage.
Et d'ailleurs, Les 7 mercenaires, hein, qui sort le 28 septembre, va nous permettre de jouer un blind test spécial nombre. Alors, on va écouter des extraits, comme d'habitude, et il faudra eh bien trouver un titre de film où apparaît un nombre. Il y en a effectivement un nombre incalculable. Et c'est pour ça que j'ai choisi 7 extraits. D'habitude, c'est 5, mais là, ce sera 7. Bonus. Marine, qui n'est pas là, eh bien, nous parlera d'un autre film qui sort le 28 septembre. C'est Radin, avec Danny Boone. Elle n'a plutôt pas aimé. Et puis, quant à moi, eh bien, je vais débuter avec un film que j'ai beaucoup apprécié, Soy Nero, de Rafi Pitts.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Et pour introduire ce film, nous allons écouter eh bien, Nicole Garcia. Ça va me permettre de faire une espèce de teaser sur la prochaine interview que l'on va entendre de la réalisatrice et actrice, puisqu'elle sort son film le 19 octobre. Je l'ai rencontrée il y a peu, et voilà ce qu'elle disait sur le cinéma.
François Truffaut disait ça, il dit souvent, il faut voir qu'à la copie zéro, il disait, on voit un détail, pourquoi on a fait un film. Un détail, et c'est vrai. En fait, un scénario, on l'aime pour des raisons, bricole, on raconte une histoire, on pense que tout est conscient, et après le montage, il arrive vraiment à la vraie raison, souvent qui est même à son insu, de pourquoi on a fait le film. Mais moi, ce film-là, c'est même pas un détail. Tout me raconte dans ce film. Voilà. Mais je dirais rien de plus.
Elle en dira un peu plus le 19 octobre. Alors, faire un film, c'est parler de soi, nous dit Nicole Garcia. Et d'une certaine manière, Rafi Pitts, le franco-iranien, s'inscrit bien dans cette formule. Lui qui est né en Iran, mais qui navigue entre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, eh bien, se trouve plutôt bien placé de parler dans son dernier film, Soy Nero, de l'immigration et des frontières. Alors évidemment, il aurait pu centrer son film dans un pays dans lequel il a séjourné et puis y placer un Iranien, mais non. Le personnage principal de Soy Nero est un Mexicain qui a longtemps vécu aux États-Unis avant de s'en faire expulser.
Name?
Maldonado.
First name?
Nero.
Where are you from, Nero?
South Central Los Angeles.
Alors évidemment, hein, c'est de l'américain, et ça donne Nero Maldonado qui décline son identité dans cette scène. Alors il donne son nom à un agent de la police des frontières qui refuse de croire qu'il a pu vivre à South Central à Los Angeles. Alors si Rafi Pitts a décidé d'ancrer son histoire aux États-Unis, eh bien c'est que c'est selon lui un des rares pays au monde à être dirigé par des immigrés. Les Indiens d'Amérique du Nord, qui en sont les habitants d'origine, nous dit le réalisateur, n'y ont aucun pouvoir. Et il ajoute, est-ce que nous ne sommes pas tous représentés aux États-Unis? Parmi toutes les communautés qui forment ce pays, eh bien, il y a forcément la nôtre. Alors, le cinéma est fait pour montrer quelque chose de grand qui touche les autres. C'est ce que j'ai voulu faire avec Soy Nero, fermez les guillemets. Alors c'est un bout de l'interview hein, réalisé pour Télérama où Rafi Pitts dit un peu plus loin « Après avoir tourné mon précédent film de Hunter, j'ai perdu mon pays de cinéma, l'Iran. J'ai alors voulu m'attaquer à ce sujet-là, le fait d'être rejeté par le pays auquel on veut appartenir. » Et c'est effectivement le nœud de Soy Nero, l'histoire d'un jeune Mexicain de 19 ans qui tente de revenir aux États-Unis en passant la frontière et dont le seul moyen, alors une fois arrivé dans le pays d'Obama, est de s'engager dans l'armée pour devenir un Green Card Soldiers, c'est-à-dire un soldat qui va obtenir la carte de résident permanent une fois qu'il aura combattu. Alors, il suffit de passer 2 ans dans l'armée pour obtenir la citoyenneté américaine. Depuis le 11 septembre et le Patriot Act de George Bush, beaucoup de migrants illégaux ont ainsi rejoint l'armée américaine pour devenir des Green Card Soldiers. et éviter l'expulsion. Et ce qu'on entend dans le film de la bouche d'un personnage, c'est qu'on a de grandes chances de devenir américain, eh bien plutôt une fois mort. Une scène nous montre d'ailleurs une cérémonie d'enterrement où le drapeau américain est remis à une famille d'origine mexicaine. Et l'autre désagrément de cette disposition est qu'au moindre délit, eh bien on peut perdre sa green card et être renvoyé dans son pays. Alors pourquoi le Mexique ? C'est simple, le Mexique et son immigration est un sujet central de la campagne présidentielle américaine, avec un Donald Trump prêt à construire une barrière infranchissable pour contenir le passage des Mexicains vers les États-Unis. Le mur, là où il existe, est bien sûr montré dans Soy Nero. Rafi Pitts ne fait pas l'économie d'une vision documentaire. Il dit même avoir séjourné un an aux États-Unis pour bien cerner son sujet. Alors là, je trouvais ça un peu exagéré d'y passer un an, mais pourquoi pas. Mais Soy Nero est avant tout un film de fiction qui avance au moyen d'un scénario habile. Alors dans ce road trip, on se retrouve dans trois lieux différents et dans chacune de ces parties, eh bien, il fait intervenir suspense, tension, humour et une certaine forme de désillusion. La mise en scène mise autant sur la patience que sur la rupture. De chacun des espaces que l'on traverse, eh bien, le réalisateur tisse des allers-retours. Ainsi, au début du film, eh bien, on le voit escalader des murs qu'il ne devrait jamais enjamber jusqu'à ce que, muet en soldat, eh bien, il soit lui-même le gardien d'une frontière. En s'emparant des questions de la frontière et de l'identité, Rafi Pitts touche parfois à une logique absurde. Alors la finesse de la mise en scène permet au spectateur eh bien, le temps de la réflexion. Le seul reproche qui peut être fait, c'est une fin utile au propos, mais à laquelle on a peine à croire dans la réalité. Mais après tout, on est devant une œuvre de fiction nourrie par le documentaire, une œuvre qui veut avant tout éclairer plutôt que distraire et offrir des éléments de réflexion plutôt que convaincre. Je dirais peut-être un poil long, mais aussi le spectateur a besoin de cette forme de patience pour cerner le sujet.
Ça va te faire plaisir, le réalisateur, c'était aussi l'assistant réalisateur de Léos Carax.
Ah, voilà. Je ne savais point. Mais je n'ai pas vu ses précédents films, pour le coup. Et c'est quelqu'un de plutôt bien coté, hein, me semble-t-il, en tant que réalisateur. Moi, c'était le premier que je voyais, en tout cas. Et il est interdit de tourner, en tout cas, en Iran. C'est pour ça qu'il a dû aussi quitter son pays. Voilà, c'est ça, une Nero, film de Rafi Pitts, déjà sur les écrans.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui, Cinérama.
Le monde devient philosophique.
On pouvait craindre le pire, hein, à l'annonce d'un remake du célèbre film réalisé par John Sturges en 1960, avec notamment Steve McQueen et Yul Brynner, qui illumina en fait nombre de mes dimanches, hein, puis à peu près tous ceux de ma génération, hein, pendant des années et des années, hein, en fait. Alors, le classique de John Sturges étant lui-même, faut-il le rappeler, une relecture du chef-d'œuvre d'Akira Kurosawa, Les Sept Samouraïs. Alors le récent traitement infligé à Ben-Hur, hein, catastrophe artistique et financière, n'augurait rien de bon, d'autant que le cinéma hollywoodien de ces dernières années semble complètement à bout de souffle, incapable de se renouveler, et même quand il réalise des remakes, c'est vraiment assez lamentable. Alors une fois n'est pas coutume, il faut bien l'avouer, Les Sept Mercenaires, qui reprend sans vergogne le design de l'affiche des Huit Salopards, est une bonne surprise, réalisée par un cinéaste très inégal, à qui l'on doit aussi bien l'excellent film de Vigilante Equalizer, mais aussi le catastrophique film de boxe La Rage au Ventre. Alors Antoine Fuqua est lui-même un mercenaire de la pellicule, un yes man talentueux quand il s'empare d'un solide scénario. Alors l'ouverture de ces nouveaux sept mercenaires laisse pourtant craindre le pire. La séquence dans l'église où les pauvres habitants d'une bourgade vont se faire agresser puis massacrer par le méchant de service, propriétaire officieux de la ville et véritable tyran, est mise en scène n'importe comment. Les plans qui durent 2 secondes maximum s'enchaînent sans qu'aucune tension ne s'installe. On a la fâcheuse impression que le cinéaste a placé 10 caméras, tourné la scène d'un jet et monté le tout avec une déconcertante désinvolture. Alors l'inspiration n'est pas vraiment au rendez-vous. Et puis, miracle, les choses s'améliorent vraiment.
On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. On nous massacre de sang-froid.
Vous êtes en quête de vengeance.
Je suis en quête de justice, mais je me contenterai de la vengeance.
Je viens d'accepter une affaire, je cherche des recrues.
T'en es à combien de recrues ?
Toi et moi, mais on va avoir besoin de sacrés renforts.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'origine des sept mercenaires, le scénario reprend la trame initiale, hein, le village mexicain étant substitué par la petite ville de Rose Creek, dans laquelle l'industriel Bartholomew Bog règne en maître. Alors une femme, Emma Cullen, la très courageuse témoin du meurtre de son mari, assoiffée de vengeance et de justice, engage, avec la bénédiction d'une partie de la population, 7 spécialistes de la gâchette et aussi du couteau. Alors des chasseurs de primes, des hors-la-loi, des tueurs à gages ou encore des marginaux issus de minorités. Alors, tout comme dans l'original, hein, l'argent n'est qu'un prétexte, les motivations de ces sept mercenaires dans cette mission suicide se trouvent ailleurs, dans une forme d'expiation, telle des anges exterminateurs venus à la rescousse de la veuve et l'orphelin. Alors, plus que dans le film de Sturges, une dimension religieuse, hein, limite étouffe chrétien, traverse le film de Fuka, tempéré aussi par un discours anticapitaliste, plutôt bienvenu pour un blockbuster de cette trempe. Alors, les sept mercenaires sont bardés de défauts. Hein. On peut les énumérer à l'appel. Hein. Le recrutement de chaque mercenaire est expédié un peu trop vite. Les personnages manquent cruellement d'épaisseur. Certaines pistes ne sont pas exploitées, comme le trauma du sudiste incarné par Ethan Hawke, hanté par la mort et la peur de tuer. Et le méchant, il faut bien l'avouer, a le charisme d'une huître. Alors, passé ces défauts, ce western crépusculaire à l'ancienne bénéficie quand même d'une mise en scène inspirée, classique certes, contredisant agréablement l'ouverture mal torchée. Les moments de bravoure possèdent un souffle épique, une densité étonnante, tournant le dos aux effets à la mode, notamment les ralentis et surtout les mouvements de caméra accélérés. Antoine Fuqua retrouve par instant, on va dire, la violence sèche et lyrique des westerns de Robert Aldrich, Sam Peckinpah ou même Clint Eastwood. C'est plutôt une bonne surprise. Hein. Denzel Washington, reprenant le rôle tenu à l'époque par Yul Brynner, 46 ans plus tôt quand même, assure comme d'habitude et les 30 dernières minutes raviront les amateurs d'un genre qui réussit souvent aux cinéastes américains, car très ancré dans leurs racines et leur mythologie. Alors, ce n'est pas le chef-d'œuvre du siècle, mais un divertissement de très bonne facture, bénéficiant de superbes paysages naturels magnifiés par un beau travail du chef-op. Et puis aussi, ça fait plaisir, un blockbuster qui est dénué à 90% d'effets numériques.
Et là, tu fais référence à Ben-Hur,
et à la majorité des films qui sont sortis récemment. Hein,
ouais, effectivement. Alors, ça nous donne l'occasion, ce film, Les Sept Mercenaires, qui sort le 28 septembre, eh bien, de jouer un blind test. Alors, on va écouter non pas 5 extraits sonores, mais bien 7, comme Les Sept Mercenaires.
Les Sept Nains.
Ou Les Sept Nains. Et donc, eh bien, on va commencer avec un premier extrait. Il faut deviner un film, et c'est très facile.
Il n'y a rien de mal à ce qu'un homme prenne du plaisir dans son travail. Moi-même, je ne rejette pas mon désir de retourner chaque péché contre son pécheur.
Attends une minute, là. T'as tué que des gens innocents jusqu'à maintenant.
Innocent ? C'est supposé être drôle ? Un obèse, répugnant ? Une créature qui pouvait à peine se tenir debout, si vous l'aviez croisé dans la rue, vous l'auriez montré à vos amis, et vous vous seriez tous moqués de lui. Si vous l'aviez vu pendant que vous mangiez, vous n'auriez pas pu terminer votre repas. Après lui, je suis passé à l'avocat. Vous avez dû secrètement me remercier de m'en être occupé. Cet homme a consacré sa vie à faire de l'argent en mentant. Il a menti pour assouvir son vice. Grâce à lui, les violeurs et les meurtriers courent les rues.
Les meurtriers ?
Une femme.
Les meurtriers comme toi, John.
Une femme ! S'il l'aide intérieurement qu'elle ne pouvait pas supporter de vivre si elle n'était pas belle extérieurement. Un dealer de drogue, un dealer et pédéraste de surcroît. Sans oublier la prostituée qui transmet autour d'elle les maladies. Il n'y a que dans un monde aussi dégénéré qu'on peut dire la tête haute que ces rebuts étaient de pauvres innocents.
Alors, c'est un blind test sur les nombres. Et là, pour le coup... Ben, un chiffre.
7, donc 7.
Voilà, 7 de David Fincher. Grand succès, un autre grand succès, on écoute.
Venez avec moi, suivez-moi.
Blasphémateur, idola, pour ceci vous allez connaître l'amertume et la honte. En ce jour, Dieu a écrit pour vous ses lois de la vie, de la mort, du bien et du mal. Ceux qui ne vivront pas par la loi périront par la loi.
Eh bien, ça a été trouvé, évidemment, facile.
Bah, les 10 commandements. Hein.
Voilà, c'est ça. Donc, film de 1955 de Cecil B. 2000, un grand succès avec Charlton Heston et Yul Brynner, qui jouait aussi donc, dans les
Sept Mercenaires.
Les Sept Mercenaires, oui. Un troisième extrait, là aussi, normalement, c'est facile.
Je ne viens pas vraiment de l'espace.
Lui, c'est Washington, il ne vient pas vraiment de l'espace.
Ne te moque pas de moi, l'ami.
Dégage à mon fauteuil !
Je fais de la divergence mentale. Je me trouve actuellement sur la planète Ogo. J'appartiens à une élite intellectuelle qui se prépare à éliminer les hordes barbares qui ont envahi Pluton. Pourtant, bien que tout soit totalement convaincant, et même si cela me semble réel en tout point, le fait est que Ogo est une élaboration de mon mental. Je suis mentalement divergent. De cette manière, j'échappe à certaines réalités innommables qui me rendent la vie impossible ici. Quand je cesserai d'aller là-bas, je serai guéri.
Alors, ça a été trouvé.
Eh bien, c'était l'armée des 12 singes de Terry Gilliam.
Oui, tout à fait. Donc, avec Bruce Willis qui se retrouve là dans un lieu où il y a quand même beaucoup de malades, dont Brad Pitt, qui apparaît à ce moment-là. Eh bien, ça a été trouvé. On continue avec un autre extrait qui, normalement, là aussi, est facile. Et là, on va du côté bien des films français.
On le vend à qui ? Le yaourt, putain.
À la ménagère ?
Et la ménagère, c'est quoi ? Mais attendez, il faut sortir, les gars. La ménagère, c'est une bonne femme fatiguée. Elle est dans son hyper de province, il y a ses gosses qui gueulent dans le caddie, elle a les mains pleines de merde, elle est crevée. Il y a tout un tas de problèmes. Il y a son mari qui picole. Il n'a pas du tout envie qu'on vienne lui prendre la tête avec des références au 12e degré. Là, personne ne connaît, je suis désolé. Alors avant de penser à vos quatre copains sur Paris que vous allez faire marrer, dont je fais partie d'ailleurs. Si. Ça me fait rigoler vos conneries de temps en temps. Eh ben avant ça, vous feriez bien de vous demander, mais qu'est-ce qu'elle a envie de voir, notre ménagère ? Qu'est-ce qu'elle a envie d'entendre ? Qu'est-ce qu'elle veut qu'on lui dise ? Eh ben ouais, voilà, c'est tout. C'est ça la question. Alors il faut arrêter de se mentir maintenant. Hein ?
Vachement sympa ta vision du monde.
Voilà, c'était Jean Dujardin.
Donc 99 francs de Yann Kounen.
Voilà, tout à fait. Adapté eh bien, du best-seller de Beck BD. Un cinquième extrait, là aussi ça devrait être facile, c'est un vieux film.
Vous avez assisté au débat, vous savez qu'il s'agit d'un cas assez complexe, d'un meurtre avec préméditation. La préméditation en matière d'assassinat est ce que nos cours criminels ont à juger de plus grave. Vous avez entendu les témoignages, on vous a lu expliquer les textes de loi qui seront appliqués dans ce cas. Et maintenant, votre devoir est de réfléchir afin de séparer les faits de ce qui relève de l'imagination. Un homme a été tué, et la vie d'un autre est en jeu. S'il existe dans votre esprit un doute valable sur la culpabilité de l'accusé, un doute valable, vous devez m'apporter un verdict de non-culpabilité. Si vous n'éprouvez aucun doute valable, vous devez, en votre âme et conscience, déclarer l'accusé coupable. Quelle que soit votre décision, elle devra être unanime. Dans le cas où vous rendriez un verdict de culpabilité, la cour ne le discutera pas. Il sera irrévocable et entraînera automatiquement la sentence de mort.
Voilà, ça a été trouvé.
Eh bien, c'était 12 hommes en colère de Sidney Lumet avec Henri Fonda.
Et un petit bonus, allez, un film français.
Comment ça va ? Vous me reconnaissez ?
On roule à 100 km/h avec un véhicule dont la vitesse est limitée à 70 km/h. Sur un tronçon de voie départementale, classé vicinal, lui-même limité à 50 km/h. Beau début. Allez hop. Contrôle les papiers, contrôle les véhicules, le grand jeu, quoi.
Excusez-moi, j'étais un peu dans les nuages.
Vous faites pas de bile. Si je vous trouve 1 ou 2 grammes d'alcool dans le sang, je vais vite voir mes pieds sur terre, moi.
Mais, si c'était que ça, monsieur l'agent, mais je viens d'apprendre que je suis papa.
Pardon ?
Oui, papa.
On n'aurait pas une cigarette ?
Ah, si, bien sûr. Tenez.
Les pères de famille sont les derniers aventuriers du temps moderne. Vénard. Vous verrez les joies, les peines aussi, les peines. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain.
Alors là, c'est Vincent Lindon qu'on entend, c'est l'avantage du film français avec la vraie voix de l'acteur. C'est Vincent Lindon en flic donc qui chante cette chanson.
Non, je ne sais pas.
37 2 le matin, film de Jean-Jacques Benex. Et oui. Dernier extrait de ce blind test, spécial nombre.
Quand t'es arrivé, je me suis dit qu'on allait bosser ensemble, que ça allait être bien. Que j'allais apprendre.
Eh ben t'apprends, hein. On vient de serrer un gars, on a trouvé sur lui au moins 50 grammes, alors on le garde pendant 4 jours jusqu'à temps qu'il nous balance le nom de son grossiste.
Ouais, en lui tapant dessus.
Pourquoi pas, hein. Qu'est-ce qu'on t'a appris à toi dans les écoles de police? Qu'il fallait lui demander gentiment où il se fournissait, c'est ça? Ou alors qu'il fallait le menacer d'expulsion? Mais il en a rien à foutre, Miloud. Il a dû être expulsé déjà au moins 5 fois. Il a des fausses cartes de séjour, il en a la pelle. Comme la moitié des gars qu'on arrête depuis 10 ans.
C'est pas normal ça.
C'est pas normal. Qu'est-ce qui est normal? Les filles qui tapinent à 14 ans pour avoir de l'héros, c'est normal? Les gars qui prennent du plâtre et qui le mettent à la place de héros pour arnaquer leurs clients, ça c'est normal? Puis le parquet qui refuse de les déférer parce que, je cite, le plâtre n'est pas une substance toxique. En somme, il n'y a que le toxico qui crève, quoi. Lui, il est normal. Il est très normal, lui.
Bon, alors les filles, on se tripote, là, ou
quoi, là?
Voilà, donc, c'est une vision de la police, mais du côté vraiment administratif, ils sont sans moyens, et ainsi de suite. Film de...
Bertrand Tavernier, L627.
Voilà. ça se termine avec un nom de code, ce blind test. Allez, on va changer d'univers. On va écouter bien la comédie française qui déboule sur les écrans ce 28 septembre. C'est Radin avec Danny Boone.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Ce qui vous fait un total de 12,88 €.
Ah non, moi j'ai 12,85 €. On n'a qu'à tout recompter, non, c'est plus prudent. Allez.
S'il vous plaît.
Ça va, mademoiselle s'est trompée, ça va ? Ça arrive à tout le monde de se tromper, oui ?
François Gauthier est un vrai radin. Il adore économiser le plus possible, dépenser le moins. Il se prive de tout, tout le temps, sans vraiment savoir pourquoi, au point même de faire de son banquier son psy pour économiser le prix des séances. Alors naturellement, cela le conduit à mener une existence très solitaire, jusqu'au jour où il fait la connaissance d'une jeune contrebassiste, visiblement sous son charme. Alors bon, parenthèse, on ne comprend pas vraiment comment une jeune femme de 30 ans, jolie, tombe amoureuse du personnage de Danny Boone, qui a 20 ans de plus qu'elle, qui est laid et totalement détestable. Mais bon, on va dire que c'est la magie du cinéma. Et bref, c'est également le moment que choisit la fille de François Gauthier pour débarquer dans sa vie.
T'es toujours aussi radin ?
Non, pas du tout.
Je te rappelle que tu m'as largué la veille de mon anniversaire pour pas m'offrir de cadeau.
C'est une coïncidence.
Combien j'ai sur mon compte déjà ?
248 596 €.
Faut que je fasse des économies.
Vous faites déjà des économies ?
Je peux faire mieux.
Vous lâchez cette cloche !
Je suis votre fille. Tu voulais que je lui dise quoi ? Que son père est la plus grande pince du monde ?
Je ne peux pas vous loger.
100 € par semaine ?
Non, c'est gentil, mais...
120 €.
140.
Ah oui, quand même. Dis donc, tu serais pas un peu...
Un peu quoi ?
Alors, Fred Cavaillet n'est pas un réalisateur malhonnête, mais il n'a jamais été vraiment bon non plus. Il a réalisé, entre autres, Pour elle, à bout portant, sans grande inspiration ni pour la mise en scène, ni visiblement pour les titres de ses films. Radin est, sans grande surprise, plutôt un mauvais film, mais Danny Boone trouve en quelque sorte, avec ce nouveau film, son Chao Pantin. Plutôt que d'opérer un virage à 180 degrés dans sa carrière et de risquer de perdre son public de comédie, comme l'a par exemple expérimenté avant lui Michael Youn, il parvient avec ce nouveau film à jouer sur différents registres, à garder une partition comique, tout en prouvant qu'il peut également jouer une partition plus dramatique. Alors, il aurait pu envisager son rôle comme un espèce d'avare moderne, mais loin de composer un personnage tout en grimace à la Louis de Funès, il fait le choix d'une interprétation très intériorisée, avec une sobriété plutôt surprenante, surtout que le résultat est finalement assez convaincant. Le film, en revanche, s'avère assez bancal, puisqu'il commence comme une comédie de facture très classique et pas spécialement hilarante, pleine de personnages stéréotypés et de situations faussement cocasses.
Vous les faites à l'unité, les mulots.
Et passé la première demi-heure, il prend un tournant dramatique, assez inattendu, surtout que la bande-annonce se garde bien de dévoiler la vraie nature du film.
Oui, un peu, oui.
Alors, plutôt que de rire du personnage radin, le choix est fait de traiter la radinerie, l'avarice, comme une maladie, une obsession, une addiction. Du coup, le film souffre de cette indécision, ni franchement drôle, ni pas vraiment émouvant. Truffé d'incohérences et de clichés à vous dégoûter ad vitam aeternam les comédies françaises, il a au moins le mérite d'être court, mais c'est déjà trop long à supporter. Heureusement, on peut compter sur la présence de Laurence Arnay, véritable petite lueur de talent dans un océan de médiocrité, une comédienne qui gagne vraiment à être connue et qui parvient à faire exister un rôle féminin ingrat, même si dans les comédies françaises, le terme de rôle féminin ingrat serait presque un pléonasme.
Il y a un moment donné dans la vie où il n'y a pas d'autre solution que de payer.
Quel brutti.
Voilà, c'était le premier film qu'on n'a pas aimé de cette émission. Et le deuxième, il arrive, c'est le film Blair Witch.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama.
Parfaitement au point et incapables de nous tromper.
Alors souvenez-vous, c'était en 1999, un petit film, donc le projet Blair Witch, film indépendant, sortait sur les écrans avec cette accroche imparable, le film le plus terrifiant depuis Shining. Alors affirmation réelle, en plus de la part d'un journaliste des Un Rock, dont je tairai le nom. Bref, deux jeunes étudiants en cinéma à l'époque, Eduardo Sanchez et Daniel Merrick, réussissent alors un coup de génie en termes de buzz et de marketing. Alors d'un point de vue cinématographique, le débat reste néanmoins ouvert. Les auteurs ont lancé, à défaut de l'avoir inventé, le found footage, en français enregistrement trouvé, procédé frôlant, à mon avis, l'arnaque pure et simple, en faisant passer pour réel ce qui reste du domaine de la fiction.
Mais quelques années auparavant, hein, il y avait déjà Cannibal Holocaust, hein, de Ruggero Deodato, qui inventait finalement ce sous-genre roublard, pas si éloigné des documentaires des années 60 tels que les Mondo. Alors en centrant l'intrigue sur une mythologie réellement inquiétante, l'univers troublant des sorcières et un environnement anxiogène pour certains, la forêt, le projet Blair Witch pouvait faire illusion, notamment en raison des conditions de tournage rudimentaires, proches finalement de ce que filmaient les personnages du film. Après une fausse suite catastrophique abandonnant le style caméra à l'épaule, Adam Wingard tente 17 ans plus tard de moderniser un concept qui sent un peu le sapin aujourd'hui.
L'été dernier, après le départ de la foule, 5 étrangers sont revenus dans les bois pour découvrir la vérité. Mais l'un d'eux possède un secret qui révélera la malédiction.
Si tu ne crois pas à Blair Witch, pourquoi est-ce que tu as pris la peine de venir ?
J'avais trouvé le film cool.
Juste au moment où vous pensiez qu'il était sans danger de retourner dans les bois, la sorcière est de retour. Oubliez tout ce que vous avez entendu. Oubliez tout ce que vous avez vu. Parce que cette fois, la vérité est plus effrayante que la fiction.
Un meurtre brutal dans les collines noires a été découvert aujourd'hui. Depuis un an, la région des Collines Noires a été envahie par des fans de cinéma, curieux d'apercevoir le lieu où le projet Blair Witch a été filmé.
Alors le film reprend à peu de frais hein, la trame de l'original, donc James, hein, c'est le héros, hein, enfin le héros, assisté d'un groupe d'amis, décide de s'aventurer donc, dans la forêt de Black Hills, dans le Maryland, afin d'élucider les mystères entourant la disparition en 1994 de sa sœur. Alors mystère qui serait évidemment lié à la légende de Blair Witch. Hein. Nos jeunes étudiants vont tomber sur deux personnes qui prétendent bien connaître la région et ainsi servir de guide, mais évidemment plus ils s'enfoncent dans les bois, plus une présence menaçante se fait ressentir. Alors pas besoin d'en dire davantage hein, devant cette suite qui au fond a des allures de remake foireux. Adam Wingard, hein, dont j'avais plutôt apprécié le très méchant You Are Next, conscient sans doute des limites de son projet, tente une greffe entre distanciation et sérieux assumé. Alors Blair Witch a des allures de, on va dire, de film méta pendant la première heure, avant de s'engouffrer dans la dernière ligne droite, dans un climax très premier degré. Mais rien ne fonctionne, on a décroché depuis longtemps devant ce spectacle navrant qui s'aborde ses rares idées novatrices, comme la présence d'une caméra drone, prétexte en fait à quelques vues panoramiques afin d'aérer l'ensemble, hein, et de sortir de la forêt, ce qui est complètement idiot pour une œuvre censée jouer sur la notion de claustrophobie. Et ces plans aériens s'abordent la toute petite ambiance qui pouvait être un peu angoissante du film. Enfin, je trouve que j'ai pas bien compris, hein, à part montrer qu'il existe des nouvelles technologies comme les drones ou les GoPro. Enfin... Alors, autre idée intéressante sur le papier, hein, le fait d'intégrer des boucles temporelles. Mais là encore, on s'engouffre encore plus loin dans le ridicule. Les deux jeunes, l'air défoncé, qui prétendent s'être égarés pendant 4 jours dans la forêt, nous gratifient d'un grand moment de comique involontaire. Et on s'étonne qu'au bout de ces 4 jours, la batterie de leur caméra soit encore opérationnelle. Alors voilà, ce Blair Witch 2016 est finalement une grosse escroquerie, un jouet de nouveaux riches qui simule sa nature en voulant paraître fauché, mais qui en réalité s'avère être une production plutôt confortable pour un found footage, 5 millions de dollars hein, quand même. Et malgré toute la technologie avancée, le cinéaste fait semblant de très mal réaliser cette ineptie, s'embourbe dans son dispositif avec d'improbables champs contre champs et foire littéralement un twist final qu'on peut zapper en toute quiétude tellement on a fini par décrocher.
Et on crie même pas dans la salle, voilà.
Ah bah personne n'avait peur, hein. Je pense qu'il y avait des gens se barraient même au bout d'une demi-heure, une heure. Moi, je suis resté par conscience.
Et pour faire ça, ta chronique, voilà, c'est ça.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Et on a précisément une minute pour parler de juste La fin du monde de Xavier Dolan, film sorti forcément à Cannes et puis sorti à cette rentrée, que j'avais plutôt bien apprécié, défendu la semaine dernière, mais... Toi, Manu, le compte n'y est pas.
Hein. Ah non, moi j'ai souffert pendant 1h30 hein, devant ce qui est presque pour moi un psychodrame vraiment vieillot et prétentieux, qui est un dispositif que je trouve extrêmement pénible, ces gros plans.
Les gros plans, oui.
Alors, je trouve le film moins mal réalisé que Mommy, mais c'est tellement voyant, et puis les dialogues sont pesants, la direction d'acteur qui veut jouer tout en non-dit est absolument, enfin moi j'ai trouvé ça, mais lamentable. J'avais de la peine pour Nathalie Baye qui est maquillée comme qui ressemble à rien, on dirait un
Pablo. C'est son personnage.
Alors c'est son personnage, mais tout est grossi, voilà. Ça se voudrait subtil, et je trouve ça, mais d'une lourdeur absolue. On sait d'emblée, dès le début du film, qu'il ne dira rien. Enfin, pour moi, c'est affiché sur une maison. Je suis venu dire un secret, mais
que je ne dirais pas.
Mais que je ne dirais pas. Et j'ai pensé pendant tout le film à un autre film sur la famille que je trouve mais beaucoup plus dynamique beaucoup plus fort, c'était Festen, qui est pas du tout réalisé de la même façon. Et c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est incomparable. Là, moi, j'ai vraiment souffert.
En regardant le dernier, Dolan, voilà. Qui est toujours eh bien, sur les écrans.
Alors, méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Il va pas contrôler qui est qui, qui est qui.
Quoi, qui est qui ?
Bah quoi, qui est qui, quoi ?
Eh bien, qu'y a-t-il ?
Auriez-vous oublié que nous partons ?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Alors la semaine prochaine, nous parlerons encore bien de deux films qui sortiront. Ce sera Chouf avec une interview de Karim Dridi. Et toi, le dernier Burton. Hein.
Le dernier Burton est peut-être Aquarius.
Qui était à Cannes.
Exactement.
De cette année.